Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. La loi des séries depuis le mois de septembre avec cette nouvelle formule 26 minutes de face à face avec celles et ceux qui font la télévision et le cinéma. Et on est ravis aujourd'hui de s'intéresser à un livre qui va mettre tout le monde d'accord sur un sujet qui n'était pas forcément évident et gagné d'avance. On en parle dans un instant. On se replonge dans l'univers du western spaghetti années 70. Un duo de choc sévit sur le cinéma mondial. Terence Hill et Bud Spencer, les voilà.
Pour moi, la définition du buddy movie, c'est eux.
C'est coloré, c'est joyeux, c'est beau. Et on s'amuse.
Ils auraient très bien pu ne jamais se rencontrer.
Même si ils n'arrêtent pas de se chamailler, ils arrivent quand même à créer une forme d'amitié. Et c'est ça aussi qui est plaisant dans ces films-là. That's enough, boy.
Est-ce qu'on est dans des films un peu primaires ou primitifs? Oui, mais primitifs dans le bon sens du terme.
On revient à l'essence du cinéma muet, mais alors sans aucun complexe.
C'est un duo international à partir du moment où...
Voilà, extrait d'un documentaire qui était déjà consacré à Terence Hill et Bud Spencer, dans lequel tu apparaissais et qui t'était consacré. C'était, ça s'appelait Terence Hill, Bud Spencer et moi, c'est ça,
c'est ça.
Et on reçoit Philippe Lombard à l'occasion de la sortie de ce livre monument sur les aventures de Bud Spencer et Terence Hill, qui va sortir dans les prochains jours sur toutes les plateformes et qui est librairie. Signé chez Pulse, qui était sorti en financement participatif. Les gens l'avaient accompagné. Voilà, Terence Hill, Bud Spencer et moi, le livre chez Pulse, avec une grande soirée le 21 pour que les contributeurs découvrent enfin ce livre qu'ils attendent. Exactement. Avec impatience. Ouais. Je le disais, un livre qui n'était pas évident au départ, parce que c'est vrai que c'est un duo qui est très populaire et qui a été très populaire auprès du public, mais de là à lui consacrer un livre en France,
oui, c'est vrai.
On aime bien les choses un peu plus sérieuses d'habitude.
Oui, c'est vrai, mais les choses un peu plus sérieuses, on a souvent plusieurs livres qui ont été consacrés, alors que c'est vrai que là, le sujet, autant vous allez trouver plein de livres sur le sujet en Italie, en Allemagne, même en Hongrie où ils sont très populaires, mais en France, il y en avait un sur Terence Hill, et puis voilà, quoi, il n'y avait rien sur le duo, quoi, donc il y avait de quoi. Pour moi, je pense qu'il n'y avait pas, il y a pas à les rabaisser ou à les mépriser, c'est vraiment une... Ils ont marqué le cinéma, en fait.
Dans l'extrait qu'on vient de voir, il y a quelqu'un qui dit très justement, est-ce que c'est du cinéma primitif au sens noble du terme? Oui. C'est-à-dire qu'on revient finalement à la quintessence de quelque
oui,
chose
ça,
de basique du cinéma, qui est la tarte à la crème, la tarte dans la
crème,
gueule.
Les bagarres, même ce que veulent faire les personnages joués par les deux, c'est toujours gagner un peu d'argent, bien manger, être libre. Enfin voilà, c'est toujours des trucs un peu primaires, mais qui parlent à tout le monde en fait.
Quand le projet vient, parce que je crois que ça fait un moment que tu le portes, que tu ouais. essayes de la porter, et que tu arrives chez Pulse, avant qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet avec nos deux Lascars, mais c'est pas difficile de les convaincre, nos deux Lascars aussi
Non,
Terence Hill et Bud Spencer de chez Pulse.
Non, parce Guillaume que avec Guillaume Dizès, on avait parlé de ça il y a des années. J'avais deux projets, il y avait un sur Tarantino, sur le guide, un peu un guide des influences de Tarantino, et on l'a fait. Et dans la même conversation, on avait parlé de Terence Hill, Bud Spencer, et Guillaume m'a dit ouais, ça serait pas mal qu'on le fasse. Et donc, ça a pris des années. Je sais qu'à un moment donné, tous les deux, on a été voir chez une éditrice, chez un grand éditeur, que je ne citerai pas, et j'ai le souvenir qu'en fait, l'éditrice se demandait de quoi on lui parlait, quoi. Et je voyais bien que j'avais déjà essayé chez d'autres éditeurs, c'était un peu un problème. Ils disaient, mais ouais, pourquoi? Enfin, voilà. Et nous, on savait que via une campagne de financement participatif, on allait toucher directement les gens qui s'intéressent à ce genre de choses un peu à côté. Je dirais pas déviantes, c'est
non,
pas déviant,
mais pas de côté.
Mais un pas de côté.
Mais
voilà,
pas de côté.
Quoi.
Et le livre est magnifique. Moi, je l'ai eu entre les mains pour préparer cette émission et j'en suis absolument ravi parce qu'effectivement, c'est un peu quelque chose qui renvoie à l'enfance aussi.
Bien
pour
sûr.
Moi, Terence Hill et Bud Spencer, je l'avais déjà dit quand on t'avait reçu, mais le bouquin est magnifique, il faut le dire. Le travail qui a été fait sur la mise en page est dingue, et dedans, ça fourmille de petites anecdotes et de coulisses du tournage. C'est répertorié, il y a la période avant qu'ils se rencontrent, y a la période de Terrence et Bud Spencer, il y a la période des films qui sont dépiautés chacun, et puis il y a la période télévision aussi, l'importance en France, enfin il y a de tout dedans, c'est vraiment...
Oui, j'ai essayé d'être un peu complet, voilà, de parler d'un ensemble de choses, et de parler de ça en fait sérieusement, c'est-à-dire de prendre tout ça au sérieux, de faire un livre vraiment cinéphile quoi.
Avec beaucoup d'illustrations. Ce qu'on va voir, dans, je crois qu'on a deux autres extraits du bouquin. Il y a beaucoup d'illustrations, il y a des affiches.
Ces pages-là ne sont pas dans le livre.
C'est vrai, elles étaient sur le crowdfunding.
Oui, mais c'était en avance pour dire voilà, ça va être comme ça, mais au final, on n'a pas ces affiches-là spécialement, mais on en a de très belles aussi.
Il y en a, des magnifiques. Alors, moi, je vais vous en trouver parce qu'il y en a une que j'ai vue que je trouve absolument magnifique. Voilà. Là, on l'a là. Je vous la montre face caméra.
Tu es chemise.
Et ça, c'est vraiment... Voilà, c'est ce qu'on a dans ce livre-là, au-delà, évidemment, du travail de rédactionnel qui a été fait et qui est absolument fantastique. Revenons à Terrence Hill et Bud Spencer. Le petit extrait du documentaire qu'on a vu tout à l'heure le disait, ils auraient pu ne jamais se rencontrer.
Ah oui, bien sûr.
C'était pas du tout un duo prédestiné.
Ah non, ça va pas être ça. Il n'y a pas une étude marketing pour ça. C'est vraiment le hasard. C'est-à-dire que Terrence Hill est un acteur. Vraiment, il a commencé à 12 ans. Il a joué dans des films avec Dino Risi. Il a joué dans Le Guépard de Visconti. Il a fait beaucoup de choses. Il a toute une partie avant qu'il rencontre Bud Spencer. C'est une partie un peu sérieuse. Il fait un peu soit les petits loupards quand il est jeune, soit les jeunes premiers, les officiers. Il fait un peu du péplum, etc. Et de l'autre côté, il y a Bud Spencer qui, en fait, est un ancien champion de natation.
Ouais.
C'est le premier qui a fait les 100 mètres en Italie sous la barre de la minute. Quoi. C'était vraiment, il a fait des Jeux Olympiques, tout ça. Mais il n'est pas du tout acteur. Et un jour, en fait, il doit remplacer, Terrence Hill doit remplacer un acteur qui s'est cassé la jambe pendant le tournage de Dieu pardonne-moi pas. Donc on va le prendre en catastrophe à Rome, il est en train de tourner un petit western, on le prend parce qu'on trouve qu'il ressemble à Franco Nero, qui est l'interprète de Django. Donc en fait, Terrence Hill, à ce moment-là, il vient un peu après tout le monde, après Eastwood, après Gemma, après Franco Nero. Donc tout le monde se copie un peu les uns les autres. Donc il se différencie pas tellement des autres à ce moment-là. Mais on le fait venir et Bud Spencer, qui au début ne voulait pas tourner parce qu'il disait ça m'intéresse pas, moi je suis pas comédien. Mais en fait, comme il avait une dette à rembourser, il dit tiens, peut-être...
C'est peut-être une bonne idée.
C'est peut-être une bonne idée. Donc voilà, en fait, il se retrouve là. Ils ne deviennent pas un duo tout de suite, mais normalement, ils n'auraient vraiment jamais dû se rencontrer. Mais Colizzi, qui était le réalisateur, se rend compte à l'écran que quelque chose se passe. Que quand ils sont à l'écran, les spectateurs réagissent. Donc en fait, ils vont en faire deux autres westerns un peu sérieux qui tournent un peu vers la comédie, mais pas encore des grosses comédies. Les quatre de l'Ave Maria, avec Eli Wallach qui jouait dans Le Bon, la Brute et le Truand, et La Colline des Bottes. Et après, ils se rendent compte qu'ils ont, les films ont beaucoup de succès, qu'ils peuvent faire quelque chose ensemble. Et donc après, bon, je résume un peu grossièrement, mais ils vont faire Trinita, et là, ça va tout bouleverser.
Qu'est-ce qui différencie ce qu'on appelle le western spaghetti du western traditionnel, tel qu'on le connaît dans le cinéma américain, le grand western de John Ford? Qu'est-ce qui différencie ces deux registres de western? Parce que eux, pour le coup, sont vraiment l'incarnation de ce qu'on a appelé, pas que, mais du western spaghetti, en tout cas, dans les premiers films.
C'est-à-dire que le western américain, c'est une sorte de mythologie qui est créée à partir de leur histoire. Mais ça ne correspond pas non plus spécialement à la réalité. Quoi qu'on puisse en penser John Wayne ou des choses comme ça, qui détestait le western italien, tout ça. Mais donc il y a toujours un côté, on va raconter quelque chose avec le... c'est très manichéen, il y a le bon, le méchant, etc.
Le gentil cowboy et le méchant indien.
Le gentil cowboy ou les méchants indiens, ou le méchant propriétaire de ranch, ou ceci ou cela. Ils n'ont pas cette idée-là, les Italiens. Au début, en plus, le premier western, c'est pas le premier western, mais le premier western qui a du succès, c'est Pour une poignée de dollars de Sergio Leone, c'est un remake d'un film japonais de samouraï qui s'appelle Yojimbo de Akira Kurosawa. Donc déjà, on n'est pas dans un truc tout à fait pur. On est déjà dans quelque chose...
De retravailler, de repenser.
Voilà. Et donc après, ils vont faire des choses avec des personnages un peu cyniques. Le personnage de Clint Eastwood dans la trilogie de Sergio Leone, c'est pas Gary Cooper, c'est pas John Wayne. Il est pas sympa, en fait. Et il agit pour son propre compte. Il est très cynique. Il va d'un clan à l'autre. Enfin, il est très violent, etc. Donc tout d'un coup, il y a quelque chose qui amène un western totalement différent, en fait.
Mais qui reste sombre, à la différence des films de Terence et Bud Spencer, qui, même les Trinitas demeurent quelque chose d'assez...
Les premiers westerns sont assez violents, quoi. Quand Le Bon, le Brut et le Truand est sorti aux États-Unis, le New York Times a dit que c'était un supermarché du sadisme. Ouais. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit pas ça comme ça, mais à l'époque, c'est très violent, mais on est dans une époque violente. On est dans l'époque, la guerre du Vietnam, etc. Donc c'est normal que le cinéma reflète tout ça. Et quand ils vont faire Trinita, ils vont avoir du mal à intéresser les producteurs. Parce que les producteurs se disent, mais nous, ce qu'on veut, c'est du sang, c'est des morts, c'est des pampans, tout ça. Et là, il n'y avait pas trop.
Non.
Il n'y avait pas trop de morts. Il y en a un peu dans le premier. Quoi. Et il y a surtout des baffes, quoi. Et donc, les producteurs italiens qui répètent toujours la recette du succès qui vient de se faire, se disent, non, ça va pas marcher, quoi. Et finalement, il y a un producteur qui accepte ça, et ça fait un carton du feu de Dieu, quoi.
Ça s'appelle, on l'appelle Trinita, on continue de l'appeler Trinita, c'est pour les deux premiers volets, et le faux troisième volet, et maintenant on l'appelle Plata, qui n'est pas du tout une troisième partie, je crois.
Parce qu'en fait, à un moment donné, ils auraient pu en faire plusieurs comme ça, c'était la règle en Italie, quoi. Et eux, ils ont dit non, on va arrêter, parce que le western est en train de se finir, parce qu'avec les Trinita, tout d'un coup, il y a un virage qui se prend, de la parodie, de la grosse comédie, donc tout le monde fait des sous-Trinita, mais à un moment donné, ils se disent ça va se détruire, ça va s'autodétruire, quoi. Donc ils font maintenant on l'appelle Plata, qui est une comédie d'aventure contemporaine, moderne. Voilà, et après ils vont faire plus que ça après. Ils vont pas refaire de western ensemble, non. À part Petit Papa Baston 20 ans plus tard.
Ouais.
Voilà.
On l'appelle Trinita, si vous ne souvenez pas. Petit extrait, d'ailleurs, les deux films ressortent en Blu-ray avec notamment des commentaires dessus de Philippe Lombard, qui est notre invité. Voici un tout petit extrait de la bande-annonce de On l'appelle Trinita.
Tels vous les aimez, tels vous ne les avez jamais vus, les champions de la détente reviennent vous offrir un de leurs plus grands succès.
Je te laisse si tu veux.
Oh, comme ça au saut du lit, ce serait pas raisonnable.
Méfiez-vous de l'adjoint du shérif, il tire vite et bien.
Vous avez envie d'un article en particulier?
Oui, vous avez pas des pruneaux par hasard?
Il a dit qu'il s'appelait Trinita!
Dis donc, crève la faim. Des rigolos comme toi, on en a rencontré des tas. Ils ont une croix sur le ventre avec leur nom dessus maintenant. Épelle-nous le tien, qu'on fasse pas de faute.
On m'appelle Trinita.
Trinita.
Alors, on voit qu'il y a déjà ce qui fait l'ADN des films tels qu'on les connaît et qu'on les aime de Terence Hill et Bud Spencer. Comment on pourrait le résumer pour celles et ceux qui en auraient pas vu? L'ADN de ces films, au-delà de la comédie, c'est quoi? C'est les bagarres?
C'est des comédies d'action, on va dire, basées sur ce qu'on appelle le buddy movie, c'est-à-dire le film de duo, en fait, où les deux personnages sont un peu opposés, et finalement deviennent copains, etc. C'est un truc qui va être très courant ensuite, qui existait déjà dans le cinéma américain, mais qui va être très courant dans les années 80.
Tout avec ça. Weber, notamment.
Avec Weber, et puis même 48 heures, L'âme fatale, etc.
Quoi. Au-delà du caractère de Terence Hill, qui est quand même plus sûr de lui, mais c'est vrai que quand on voit... quand on voit Terence Hill et Bud Spencer, c'est impossible de ne pas penser à la chèvre avec Depardieu et Pierre
sûr,
Richard.
Ouais,
quoi.
Ouais, bien sûr.
Mais au-delà de ça, la comédie, la bagarre, puis le côté très parodique. Quoi.
Parodique. La nourriture a une très grande importance. Il y a toujours des scènes où ils mangent. C'est des enfants en fait, c'est des grands enfants. Ils s'arrachent le poulet, ils mangent des plats de haricots, ils mangent rapidement avec les mains, ils rotent à la fin du repas. Enfin, c'est un truc que les gamins se disent, moi j'aimerais bien faire ça. Moi j'aimerais bien qu'à la maison, on me laisse manger avec les doigts et pouvoir roter à table. Donc il y a un truc un peu régressif dans ces films-là aussi qui a une part importante.
Il y a une influence de la BD dans la construction de ces personnages-là, ou en tout cas sinon de la BD, en tout cas de l'animation aussi, sur le côté je disais texte tout à l'heure, mais c'est vrai que le coyote qui peut tomber d'une falaise de 10 mètres de haut sans arrêt, sans se faire mal, les mecs qui se font taper dessus, moi Moi, je me voyais ça. Ils prennent des mandales dans la gueule et ils sont jamais rassasiés, quoi.
Oui, c'est ça. Ouais. Mais il y a certains, notamment dans les films qu'a pu faire Sergio Corbucci, qui était le réalisateur de Django, par exemple, mais qui a fait des westerns très violents, mais qui a aussi fait des comédies. Par exemple, dans Père et Impère ou Salut le Dieu le Trésor, on voit des plans où le méchant il reçoit un coup de poing et on voit les dents qui sont éjectées comme ça. C'est une sorte de gag vraiment de cartoon, quoi. C'est un peu Tex Avery, un peu Tom Jerry, où ils sont aplatis comme ça, et puis la scène d'après, ils sont revenus, quoi.
C'était difficile pour eux de ne pas être piégés, justement, d'un registre et de ne pas faire la comédie qui se répète et une formule qui se répète.
En même temps, c'est une formule qui s'est répétée, en fait. Ils refaisaient un peu la même chose, mais c'était tellement demandé. Ça marchait tellement, en fait, en Europe et dans une grande partie en Amérique du Sud aussi, etc. Donc, oui, ils essaient. Il y a des films qui, sont à la suite, se répètent un peu. C'est sûr. Je veux dire.
Cul et chemise ou Père Impère, c'est un peu les mêmes.
Oui, et puis quand faut y aller, et attention les dégâts, il y a toujours l'idée, on les prend pour des autres, il y a des sosies, etc. Il y a toujours des. Mais ça, comment ça marche tellement que. Voilà, je pense que vers la fin, c'était plus difficile de se renouveler, quoi.
Est-ce que c'est un duo et des films qui ont fonctionné différemment selon les territoires? Parce qu'effectivement, on se souvient du mythique duo Brett Sinclair et Danny Wahl qui, avec Amical Mamotre, ont fonctionné essentiellement en France, pas très bien marché aux États-Unis et un petit peu en Angleterre. Est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'ils sont plus populaires, je ne sais pas, en Italie et aux États-Unis, en France, que dans d'autres pays du monde?
Ils étaient très populaires en Europe, dans toute l'Europe. En France, énormément. En France, les films taquinaient au box-office les James Bond et les Belmondo, quoi, à une époque. Ça marchait énormément en Italie. Je veux dire, le deuxième Trinita fait 14 millions d'entrées, quoi. Et en Allemagne, même encore aujourd'hui, c'est des icônes. Donc, il y a vraiment ces pays d'Europe. En Espagne, ça marchait bien aussi. En Hongrie, c'est des films qui passaient sous l'ère communiste et c'était un peu les seuls films occidentaux qui passaient. Donc, c'était un peu une bouffée d'air, quoi, pour eux, quoi. Moi, j'ai une amie allemande qui vivait en Allemagne de l'Est et quand elle voit, encore aujourd'hui, même avec ses frères, ils ont un souvenir ému quand ils voyaient ces films-là. Ils pensaient même que c'était des films américains. Parce que, évidemment, Terence Hill, Bud Spencer, ça se passe en Floride et tout ça, mais c'était vraiment, il y avait vraiment quelque chose d'important, quoi, pour eux.
On parlait tout à l'heure de ce qui faisait le sel de ces films-là. Il y a évidemment leur binôme, les scènes d'action à proprement parler, mais dans la façon de les concevoir, il y avait aussi une grande importance accordée à la musique, comme dans les films, avec notamment la participation d'un groupe qui a beaucoup travaillé sur les films de Terence Hill et Bud Spencer, qui est Oliver Onions, Guido et Maurizio De Angelis.
Voilà, ces deux frères.
Et qui ont fait beaucoup de choses qu'on connaît aussi en France, parce qu'ils ont fait des séries comme Sandokan, et puis des dessins animés comme Le Tour du Monde en 80 jours,
ou
Les Trois Mousquetaires. Mais voilà, c'est un duo mythique de la musique du film qui a beaucoup travaillé sur les films de Terence Hill et Bud Spencer.
Énormément. Ils ont... En fait, la musique est vachement... Il y a beaucoup de choses importantes. Il y a les éléments dont on a parlé. Il y a la musique, il y a les affiches. C'était un ensemble, quoi. Il y a une sorte de package, quoi. Et la musique des frères De Angelis, elle est gaie, en fait. Tout de suite, on a envie. Moi, je sais que ça me fait sourire quand je les entends, quoi. Tout de suite, parce que je sais ce que ça me rappelle. Je sais, voilà, on est dans un truc, on est dans un univers un peu où rien n'est grave, finalement. Et il y a toujours un rythme, quelque chose de vraiment d'incroyable chez eux, quoi.
Avec des partitions qui sont incroyables. Moi, j'ai vu un concert qu'ils ont donné à Berlin en 2016, je crois, 2017, où ils reprenaient leurs plus grands tubes.
Ils font ça.
Et ils sont incroyables, quoi, tous les deux.
Ils ont fait aussi des musiques de films très sérieux, de polar italien. Ils ont fait la musique de Zorro avec Alain Delon. Enfin, ils ont fait beaucoup de choses, quoi. Effectivement, aujourd'hui, ils font qu'on des concerts. Et en Hongrie, ça marche. En Hongrie, ils font des concerts, quoi. C'est fou, quoi.
Et c'est vrai que ces thèmes sont devenus iconiques. Je pense à celui de Père et Impère qui est marquant, mais les musiques
de Superflic, tout ça.
De Superflic, ils sont importants, comme la musique a eu une grande importance dans les westerns plus sérieux. Toujours quand il y a un duo ou quand il y a un groupe, il y a le risque effectivement qu'il y en ait un qui prenne le lead sur l'autre. Est-ce que c'est arrivé avec eux deux? Est-ce qu'il y en a un qui a été plus populaire que d'autres? Spontanément, on se dirait. Bud Spencer, il est jovial, même s'il fait la gueule, il a toujours un peu le mec un peu déconnant, mais est-ce que c'est pas finalement l'autre qui a pris le lead à un moment donné?
Je pense qu'ils étaient à égalité, en fait. C'est-à-dire qu'il y en a qui préféraient l'un ou l'autre, évidemment. Mais l'intérêt, justement, c'est qu'ils sont complémentaires. Il y a le grand costaud et le beau gosse Blondinet, quoi. Donc, et ça se jouait dans les personnages. Il y a toujours Terence Hill qui va, en général, chercher Bud Spencer, qui est tranquillement en train de faire la sieste et qui l'emmène dans des aventures incroyables. Donc je pense que, par exemple, en Allemagne, je sais que Bud Spencer est extrêmement, extrêmement populaire. vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont faites sur lui, etc. Mais Terence Hill l'est aussi, d'autant qu'il était à moitié allemand. Donc voilà. Mais je pense qu'on aimait les deux. Mais c'est toujours pareil. Est-ce que les gens préféraient Starsky Hutch ou Brett Sinclair et Danny Wilde? Il y a toujours. Je pense que les deux étaient complémentaires. Et à chaque fois, on a selon ce qu'on est, ce qu'on aime. Voilà.
Mais ceci dit, Terence Hill a fait pas mal de choses derrière. Et notamment pas mal de séries, je pense à Don Matteo ou encore Lucky Luke. Et c'est vrai qu'il a eu beaucoup de succès avec ses programmes-là. Bud Spencer, les collections qu'il a fait comme Le Professeur ou Extra Large ont été un peu plus confidentielles, même si elles ont bien marché. Donc,
Non, je crois pas que ça soit confidentiel.
Ah, mais j'étais persuadé de l'avoir vu, moi, en catimini sur M6 à l'époque. Oh, non, ça a eu un gros succès.
Oui, ça a marché pas mal. Hein, je veux dire,
d'accord.
C'est parce qu'en fait, ils ont arrêté un peu de faire des films. Ils se rendaient compte aussi que finalement, c'était plus facile de vendre leurs films aux chaînes de télé. Qui préféraient juste les acheter et faire des cartons d'audience plutôt que de trouver des producteurs pour produire. Et bon, de toute façon, à un moment donné, ils avaient un certain âge, donc ça, les gens allaient moins voir leurs films. Petit Papa Baston, ça a été un échec total, quoi. Mais en télé, ça pouvait fonctionner. Et ça a fonctionné. Effectivement, il a fait Le Professeur, il a fait Extra Large, Les Faux Frères. C'est des choses qui fonctionnaient dans toute l'Europe.
C'est Faux Frères avec le héros de Flic à Miami avec lui.
C'est ça. Et Terence Hill, il est revenu, il vivait aux États-Unis, il est revenu en Italie. Et c'est là qu'il a fait. Donc avant, il avait fait Lucky Luke, il a fait aux États-Unis. Et en Italie, il a fait Don Matteo, il fait un prêtre qui mène des enquêtes. Et en France, il y a eu 2-3 saisons, ça s'est terminé il y a 2-3 ans, il n'y a pas très longtemps en fait. Oui, c'était un énorme succès en fait. Et ils faisaient même d'autres séries entre deux saisons de Météo en Italie, ils en faisaient d'autres aussi.
Deux acteurs extrêmement importants et qui doivent beaucoup aussi, on le disait. Il y a un parti dans le livre aussi. Alors, voix française. Et c'est vrai que, notamment Dominique Paturel, qui double Terence Hill, ça a donné tout de suite l'identité de ce personnage-là.
Oui. Bah ils étaient. Alors, Paturel n'a pas tout doublé.
Non.
Claude Bertrand a doublé une grande partie quand même. Claude Bertrand, c'était la voix de Roger Moore, la voix de Charles Bronson, et il faisait très bien Bud Spencer. Et donc Paturel, effectivement, lui donnait peut-être une malice et tout dans ses personnages, quoi. Mais c'est marrant parce que dans tous les pays. Le doublage est très important sur ces films-là. En Allemagne, même en Italie, parce qu'en Italie, en réalité, c'était pas leur voix.
C'était pas leur voix ?
Non, parce qu'en fait...
Bah oui, ils remarquent par leurs origines, oui.
Tout était en Italie, on tournait pas en son direct, donc il fallait tout redoubler. Mais souvent, on considérait qu'on pouvait doubler par d'autres acteurs. Et Bud Spencer, qui avait un accent napolitain, ça fonctionnait pas. Donc ils sont doublés par Pino Locchi et Glocco Onorato, et qui sont, des espèces de stars du doublage et tout ça. Et quand Terence Hill a repris sa propre voix pour tourner Don Matteo, les gens étaient surpris. Ils disaient, mais le mec qui le double, là, c'est qui là, ça va pas du tout, quoi. Et en fait, non, c'était sa vraie voix, quoi.
Les personnes ne les a contactés, c'est dingue, dans les années 80-90, pour faire Astérix et Obélix en France. Ils auraient été géniaux tous les deux.
Oui, c'est vrai que c'est vrai. Souvent, dans la presse, dans les critiques des films, ça arrivait souvent en France qu'on disait ouais, mais c'est quand même, on dirait Astérix et Obélix. C'est vrai, il y a ce côté-là un peu. Le petit malin et
le grand qui mange tout le temps.
Voilà, c'est ça. Oui, il y a ce côté-là, oui, c'est sûr.
Et c'est ça qui a fait le sel. On se rend compte, en tout cas, avec ce succès dans tous les pays du monde, que ce bouquin, il est attendu dans pas mal d'endroits, en tout cas. Parce qu'il y a eu une biographie de Terence Hill il n'y a pas longtemps.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'il y a peu de documents sur cette période-là.
Non, il y a peu de choses, là. Et puis, je pense qu'il y a les gens qui ont notre âge, un peu plus, ils se souviennent de ça et ils ont envie d'y retourner, quoi. Le succès qu'ont en ce moment les Blu-ray des films et tout ça... C'est étonnant que ça marche à ce point-là, quoi. Les gens ont envie de revoir ça en bonne qualité et tout ça. Donc, je pense que oui, le livre arrive au bon moment.
Ça vieillit ou pas, ces films-là? Objectivement, même en tant qu'amateur qui s'est planché sur ce film-là, est-ce que ça vieillit bien? Il y a des films qui, par contre, vieillissent très mal parfois.
Il y a des films qui vieillissent. C'est pas toujours. Ce qui peut vieillir, c'est le doublage, en fait. C'est le texte. Ouais. C'est le texte. Il y a des choses qu'on ne pourrait plus dire aujourd'hui, dans certains films, bon, mais qui sont pas, c'est pas méchant, mais c'est on va dire entre guillemets, c'est de gentiment raciste, quoi. Enfin, mais sans
le racisme ordinaire qu'il y avait dans les années 70.
Mais bon, sans que ça soit, c'est pas non plus idéologique, quoi. Donc évidemment, il y a des choses comme ça qui vieillissent, mais en même temps, c'est tellement comment dire universel ce qu'on voit, c'est tellement l'amitié, la bouffe, les bagarres, que finalement on rentre dedans, quoi.
Avant de terminer, je précise quand même que ce livre aux États-Unis aura une partie dédiée spéciale qui a été refaite il y a quelques semaines, partie consacrée à l'exploitation aux États-Unis, qui est à la place de la partie dédiée à la place en France, évidemment. Donc qui est spécialement faite par quelqu'un qui a travaillé dessus pour
qui a même parlé du doublage aussi en anglais, dans les versions anglaises et américaines, etc. Oui, c'est très bien fait.
Si je devais, pour finir, te demander tes trois films marquants, pas forcément préférés, mais les films qui restent, qui continuent d'avoir une place importante dans ta vie de cinéphile, d'amateur. Compliqué, hein.
Ouais, mais pendant très longtemps, j'aimais beaucoup de Super Flic et quand faut y aller. C'est vrai que maintenant, je suis assez porté sur les premiers, mais genre les deux missionnaires ou maintenant on l'appelle Plata. Maintenant, on appelle Plata, il y a un ton de liberté qui est tout à fait réjouissant. C'est un film d'aventure qui se passe en Colombie, où en fait, ils n'en ont rien à faire des autres. Ils sont dans leur coin, c'est assez réjouissant. Il y a celui-là, il y a Mon nom est personne, évidemment.
Oui, Henri Fonda.
Henri Fonda. Et puis, je dirais, je sais pas.
J'étais sur la page, vous voyez, de Mon nom est personne, avec la très très belle.
Voilà, film magnifique, un chef-d'œuvre.
Il a même tourné avec Miu Miu et Robert Charlebois.
Dans une sorte de suite, un génie de Associer une cloche, oui, bien sûr. Et un troisième, il y en a un que j'aime beaucoup, là, c'est un Bud Spencer solo, ça s'appelle Le Cogneur. Ça s'était retitré Pied plat à Hong Kong, je crois. Et c'est là, il fait un inspecteur de Naples qui va enquêter à Hong Kong et à Macao. Et vraiment, c'est un super film.
En tout cas, super film. Et découvrir ce livre. Franchement, moi, je l'ai que depuis 24 heures. Je l'ai parcouru pour préparer l'émission. Je le trouve magnifique. Il est passionnant, mais magnifique aussi. Et ça s'appelle un beau livre.
Merci bien.
Ça s'appelle un beau livre. Et franchement, allez-y. Quand il va être dispo d'ici quelques semaines dans les librairies, allez-y. Vous précipitez-vous. Vous savez l'affection qu'on a pour le travail qui est fait chez Pulse. Mais voilà. Encore une fois, ils prouvent entre leurs mains, effectivement, les sujets les plus originaux, en tout cas les plus d'un pas de côté, trouvent toujours une place dans les belles bibliothèques. Et celui-là est magnifique. Ça s'appelle Les Aventures de Bud Spencer et Terence Hill. Ça sort bientôt aux éditions Pulse. Voilà. Moi, si je devais dire mes trois films préférés, ce serait peut-être. Moi, je suis vraiment des trucs un peu plus. Beaucoup plus basiques et classiques. C'est vrai que j'aime bien les Trinitas. J'aime bien quand c'est excessif. Alors, je dirais peut-être Père et Impère. Ouais. Et puis, Salut l'ami Adieu le Trésor qui me fait toujours marrer parce que c'est pas très futé, mais enfin, ça reste drôle. Et voilà, et moi, je suis plus casé là-dessus. Ce livre-là, en tout cas, ne pas rater une nouvelle fois. Et puis, entre les mains de Philippe Lombard, qui est un fin connaisseur du cinéma, c'est toujours très bien exploité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci.
C'était un plaisir. Je salue encore le travail de Claude Gaillard et Guillaume Ledicèze chez Pulse pour l'édition.
Oui,
c'est important. Et puis tous celles et tous ceux qui ont collaboré au travail de ce livre. Merci à vous. On se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de la WDC. On parlera justement de Lucky Luke bientôt avec les deux créateurs de la nouvelle version pour Disney+, avec Alban Lenoir. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à très vite.